Le ministre Dubé a présenté hier son nouveau projet de loi sur la santé, entre autres. Il y a un détail qui fait énormément jaser, d'obliger les nouveaux médecins formés ici à travailler dans le réseau public pour une période de 5 ans avant de pratiquer ailleurs, avant de pratiquer au privé. Sinon, conséquences quand même très sévères. On va parler de tout ça avec un ami de l'émission, Pascal Renault, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec, qui est au bout du fil. Pascal, bon matin.
Oui, bon matin.
Merci d'être là avec nous, Pascal. Ce matin, on sait que tu as un horaire assez chargé, mais il fallait qu'on se jase parce qu'il y a quelque chose qui me dit que tu n'es pas super heureux avec la présentation du projet de loi du ministre Dubé.
Exactement. Je suis encore déçu du ministre de la Santé. C'est pas la première fois, mais c'est ce que je vis actuellement, de la déception.
Si on y va avec ce... Il y a plusieurs détails là, dans la présentation du projet de loi, mais ce qui fait jaser, comme je disais, là, c'est d'obliger les nouveaux médecins formés ici à travailler dans le réseau public pour une période de 5 ans. Sinon, conséquences quand même sévères. Et là, on parle avant de passer au privé, avant de pratiquer ailleurs au pays. C'est une bonne idée d'imposer des choses à des passionnés, des jeunes qui voudraient se lancer dans la médecine, parce qu'on sait qu'il en manque, et qui voudraient étudier ici au Québec?
Bien, tout d'abord, je vais juste répéter là, ce que je vous ai déjà dit. Je suis pour un réseau public fort.
Oui.
Donc, puis moi, j'ai toujours été dans le public toute ma vie. Je vais le rester jusqu'à ma retraite. C'est clair, c'est une décision que j'ai prise. Par contre, de rendre obligatoire, sous peine de charges dérisoires, 200 000 par jour de travail, de pénalité, c'est comme le salaire annuel net d'un médecin pour une journée là, dans le privé s'il n'y a pas le droit. C'est comme impossible là, comme façon de faire. Puis c'est surtout un bris de la liberté là, des jeunes médecins de choisir où ils veulent travailler. Pour moi, ça ne fait pas de sens comme projet de loi. Puis dans un contexte où on essaie de valoriser la médecine familiale, d'amener les gens en médecine familiale, ben c'est un obstacle de plus pour les médecins. Puis il risque d'avoir un effet négatif là, à court terme, avec des jeunes médecins qui vont se dépêcher d'aller au privé, qui sont à moins de 5 ans de pratique, parce qu'ils auront peur là, de ne pas pouvoir faire le saut si le système actuel ne répond pas à leurs besoins. Là.
Pascal, ça pourrait-tu simplement décourager des gens d'étudier en médecine au Québec, ou c'est moi qui vois le pire?
Bien, en fait, il va toujours y avoir des gens qui vont vouloir aller en médecine. Actuellement, il y a à peu près 1000 médecins qui sont acceptés là, comme en médecine, puis il y a pas vraiment autour de 4000 demandes.
Okay.
Donc, les postes vont se combler. Par contre, je comprends pas pourquoi le ministère ou le ministre, en fait, veut être inéquitable envers les autres étudiants puis les autres professionnels. En médecine, il y a 3,7% des médecins qui ont choisi d'aller au privé. Puis, c'est drôle, hier, on a eu une table de valorisation de la médecine familiale. Puis, les ateliers de l'après-midi étaient sur la médecine au privé. On voulait comprendre pourquoi les médecins allaient au privé plutôt qu'au public. Mm-hmm. Puis, on a eu la chance d'avoir 3 médecins du privé qui sont venus faire un témoignage. Puis, aucun qui était là, c'était pour des raisons monétaires. Hein. C'était des gens qui étaient déçus des conditions de pratique en médecine familiale. C'est ce qui les a fait aller vers le privé.
Donc, Pascal, c'était ma question. Est-ce que le public est à ce point mauvais pour qu'on doive obliger les médecins à y travailler? T'sais? Pourquoi, justement, on se sent obligé de donner ces amendes-là déraisonnables pour garder notre monde?
Oui, bien, les conditions sont très difficiles dans le public actuellement. Puis, un des exemples qu'un des médecins donnait hier, il disait qu'il travaillait dans un CLSC. Puis, il y a eu, dans la même année, plus de 5 adjointes administratives là, pour occuper le même poste. Donc, à chaque fois, il devait la former pour faire le travail. Puis, oups, elle s'en allait dans un autre poste au CIUS. Il reformait quelqu'un. Donc, toute cette énergie-là qui était perdue pour lui, était quelque chose de trop. Puis, il a décidé d'ouvrir sa propre clinique privée. Puis, depuis ce temps-là, il y a la même adjointe administrative. Depuis le début, c'est lui qui choisit ses employés. Puis, les employés relève de lui, relève pas là, de l'établissement. Donc, à ce moment-là, l'employé fait un peu plus le travail qu'il a besoin pour sa clientèle.
Je comprends qu'il y aurait avantage pour absolument tout le monde d'améliorer les conditions au public, puis que de ce, à partir de là, il y aurait moins d'envie de partir au privé. Par contre, à partir du moment où le gouvernement, l'État, les contribuables investissent des centaines de milliers de dollars dans la formation des médecins, il n'y a pas une certaine logique à ce qu'ils doivent commencer dans le public pour un peu redonner à la société via le public?
Oui, bien, je veux juste vous dire que le ministre est un petit peu manipulateur hein, quand il vous présente ces chiffres-là. Il inclut dans ces chiffres-là le salaire des résidents durant leur résidence. Puis, le salaire des résidents là, varie entre 49 000 et 74 000 selon leur niveau de formation. Donc, puis c'est des formations qui sont entre 2 et 8 ans. Donc, on se rend compte qu'une grande partie du montant qu'il met dans le coût de formation d'un étudiant en médecine inclut du salaire fait dans un service public par les médecins résidents. Puis, les médecins résidents qui sont payés 49 000, bien, si on compte sont probablement autour de 70 heures par semaine à l'hôpital, ça fait que leur salaire est moins haut que le salaire minimum quand on compte toutes les heures qu'ils font à l'hôpital, en plus du temps qu'ils passent à étudier leurs examens à la maison. Là. Donc, c'est sûr que le chiffre paraît gros quand on regarde comme ça, mais si on exclut les salaires, ça nous ramène à une formation qui se rapproche probablement des infirmières praticiennes, là, les fameuses super infirmières, parce qu'ils font la même résidence là, que... En fait, ils font une partie de la résidence des médecins de famille, les mêmes stages, toutes les mêmes choses.
Hey Pascal, tu me le dis si ma comparaison est boiteuse, mais là, on tape sur le clou des médecins. Mais dans le système de l'éducation, on manque de profs aussi. On pourrait-tu voir la même chose? Un enseignant sort de l'université et pourrait être tenté d'aller dans le privé, mais on lui dit « Non, attends une minute, là. Quand tu sors de l'université, tu vas aller dans le système public. » Et ensuite, pendant 5 ans, et ensuite, tu prendras une décision. C'est une comparaison boiteuse?
Ben non, c'est pas boiteux. Puis si le ministre voulait être équitable envers tout le monde, ben il faudrait que tous les professionnels de la santé, puis probablement, comme tu dis, les enseignants aussi, fassent la même chose, parce qu'on paie aussi les frais de scolarité de ces étudiants-là. Puis, à titre d'exemple, là, dans le réseau, il manque de physiothérapeutes, il manque de psychologues. Donc, est-ce que les 5 premières années, on devrait leur dire, ben, vous faites obligatoirement du travail en établissement où le patient n'aurait pas à payer pour les frais parce que l'établissement les paie actuellement? La majorité des groupes de médecine familiale aimeraient avoir un psychologue dans leur équipe. Malheureusement, il n'y en a pas disponible. Ils sont tous au privé dès la première année. Même chose pour les pharmaciens. Les pharmaciens d'hôpitaux ils en cherchent actuellement. Mais ils vont travailler dans des pharmacies comme Jean Coutu puis les autres bannières. Puis, juste vous donner un exemple qui m'a quand même frappé, là, parce que on dit souvent, le ministre, c'est comme un bon père de famille qui s'occupe des gens, mais actuellement, de la façon qu'il agit, il n'aime pas ses enfants de la même façon. Si on est une super infirmière, il offre des bourses d'études de 60 000 $ là, pour leur cours universitaire là, d'infirmière praticienne. Puis la seule condition, c'est de faire 6 000 heures dans le système public une fois que tu as terminé ton cours. Puis pour les médecins, eux autres, au lieu d'offrir un bonus incitatif à rester dans le public comme il le fait pour les IPS, ben c'est non, tu es 5 ans dans le public, sinon tu as 200 000 $ par jour d'amende si tu respectes pas cette loi-là. Puis cette loi-là, d'après moi, elle n'est pas constitutionnelle. Il y a au moins 2 articles de la Constitution canadienne qui sont bafoués par cette loi-là. Donc moi, je serais pas surpris que les étudiants en médecine ou les résidents la contestent là, au niveau de la Cour suprême.
Ben ouais, c'est ça, ça pourrait aller jusque-là. Pascal, en terminant rapidement ma dernière question, puis je me réfère à Paul Arcand sur le site de La Presse qui dit avoir parlé avec énormément de jeunes médecins qui disent qu'ils sont tannés du docteur bashing. Est-ce que toi, Pascal Renaud, t'es tanné de ce docteur bashing-là par la CAQ?
Exact, oui, je suis très tanné, puis l'ensemble des médecins de famille sont tannés. On reçoit là, des témoignages là, presque à tous les semaines là, de médecins qui sont tannés, qui pensent aller au privé. Puis je vous parlais hier de notre table de valorisation où on avait un médecin du privé. Puis ce médecin-là du privé, il anime un groupe Facebook des médecins désaffiliés de la RAMQ. Puis depuis que le ministre Dubé a parlé d'imposer des règles pour les jeunes médecins de moins de 5 ans de pratique, elle dit qu'elle reçoit là plus de 15 demandes d'adhésion au groupe par semaine de médecins qui cherchent à savoir comment aller pratiquer hors de la RAMQ. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à court terme, on perde des médecins, puis l'effet de limiter la pratique au privé des jeunes médecins va se faire sentir dans quelques années. Donc, on va empirer la situation. Moins de patients vont avoir des médecins de famille au cours des prochaines années par encore une mauvaise décision du ministre de la Santé.
Pascal Renaud est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Pascal Renaud, docteur Renaud, toujours un immense plaisir. Merci pour ton temps, Pascal, encore une fois, ce matin, sujet-là.
Ça fait plaisir. On se reparle prochainement.
Oui, à bientôt, Pascal.
Salut, merci, Pascal.
Salut. Ma comparaison, j'aime ça. La comparaison.
Est tellement bonne.
Mais ouais, mais tu vois, quand je dis là, elle est peut-être boiteuse, puis tout ça, c'est parce que, tu sais, je veux le lancer à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. Mm-hmm. Je pitche ça comme ça. 88-971-1021, si vous avez opinion à ce sujet-là, parce que pour moi, c'était une piste de discussion puis une comparaison qui pourrait amener à la discussion. Mm-hmm. Si on isolait un certain domaine d'études et de travail versus un autre. On va aller au téléphone. Allô, Boulevard?
Hey, salut.
Salut, comment ça va?
Salut, Reg, c'est Raj.
Hey, Raj.
Aïe, ça peut m'a fermé mon téléphone,
ouais.
mon radio.
Ma radio, oui.
Non, mais j'écoute, j'aime bien les écouter. Je suis bien d'accord que le gouvernement, la CAQ versus les médecins ou whatever, les infirmières, les profs et tout ça, oui, il y a quelque chose à gérer, mais les médecins, c'est comme un peu le message que j'ai écrit en texto, c'est qu'on paye pour toutes leurs études, puis je pense que c'est un secteur. Mon fils, il s'en va en médecine. Là. OK, quand il est au cégep. Mais sauf que, oui, si tu vas aux études dans le but d'aller au privé, mais ça coûte cher en tabarnache, ça, là. Oui. C'est frustrant. Quand j'écoute Dubé dire, écoute, moi, je forme quelqu'un pendant 7, 8, 10 ans, puis il faut que je recommence parce que on l'a formé, mais il s'en va, puis il n'aidera pas tant que ça le public. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, on leur offre des études qui coûtent une fortune, puis après ça, ils s'en vont ailleurs. Puis où ils changent de province, ils s'en vont ailleurs. Ça, c'est pas... Je trouve que c'est légitime. Puis en plus, ces gars-là, ces femmes-là, ils vont gagner un salaire énorme grâce à nous. Oui, ils font des efforts. Oui, on en a besoin. Oui, tout ça. Mais je pense que c'est un peu eux autres qui nous tiennent par les couilles.
C'est un excellent point, Rog.
Okay.
Ouais, merci pour l'appel.
Okay.
Salut. J'aime ça.
Ah, j'adore.
J'adore, ça crée la discussion. Et on pourrait les tirer pendant un bon bout, j'en suis certain. Je viens d'avoir un petit message ici d'Émilie, qui est à la réception, qui nous dit que... Je vais m'assurer là, avant de... Ben oui! Marc Tanguay, le chef par intérim du Parti libéral du Québec, est en attente pour passer nous voir en studio. Fait que courte pause, puis on accueille M. Tanguay en studio.
Magique.
Vous êtes à Rage Against le matin, Boulevard 101. Rage.